Le 13 mars 1942, le mari de la missionnaire, Darlene Daibler, lui dit « Souviens-toi d'une chose, ma chère. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais et ne nous délaisserait jamais. » Darlene ne le savait pas, mais ce furent les derniers mots qu'elle entendrait jamais de son mari. À l'âge de 9 ans, Darlene était devenue croyante. Un an plus tard, elle sentit que Dieu l'appelait à aller un jour parler de Jésus aux gens. À cet âge tendre, elle pria, « Seigneur, j'irai partout avec toi, quel qu'en soit le prix. » 10 ans plus tard, elle épousa son mari, et ils déménagèrent en Nouvelle-Guinée pour partager l'espoir de Jésus avec la population locale. Ils y trouvèrent une tribu qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, et les jeunes mariés vécurent parmi eux pour leur annoncer l'Évangile. Darlene et son mari aimaient profondément ces gens. Tout se passa bien pendant environ 3 ans. Mais la Seconde Guerre mondiale changea tout. Le Japon prit le contrôle de leur région. Ils eurent l'occasion de partir et de rentrer chez eux, mais ils décidèrent de rester. Peu de temps après, ils furent envoyés dans des camps de prisonniers, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Darlene y resta pendant les 4 années suivantes, endurant épreuves et souffrances. Elle fut torturée, affamée, faussement accusée et forcée d'être seule. Dans le camp de prisonniers, son mari tomba malade et mourut. Elle ne l'apprit que 3 mois plus tard. Dans son autobiographie, elle écrivit à propos de ce moment où elle apprit la mort de son mari. Tout s'était passé si vite et sans le moindre avertissement. J'étais abasourdi. Mon mari était mort. Il était mort depuis déjà 3 mois. Il avait dit « Dieu ne nous abandonnera jamais et ne nous délaissera jamais. Non ? Et maintenant, Seigneur, ce fut l'un de ces moments où j'ai cru que Dieu m'avait laissé, qu'il m'avait abandonné. Tout mon monde s'est écroulé. Peut-être n'as-tu jamais vécu l'expérience de Darlene, mais il se peut que tu connaisses ce sentiment. Le sentiment que Dieu t'a abandonné. La nuit noire de l'âme, comme certains l'appellent. Ce matin, j'aimerais que nous regardions le psaume 27. C'était l'un des psaumes préférés de Darlene Daibler. Je finirai un peu plus tard de raconter son histoire. Mais je veux revenir à sa question. Le Seigneur l'a-t-il réellement abandonné? Le Seigneur nous abandonne-t-il jamais? Eh bien, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi au psaume 27. C'est un psaume du roi David. Ce psaume, ainsi que celui qui le précède et celui qui le suit, parle de la recherche du Seigneur dans sa maison. Regardons le verset 1. 27. 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie. De qui aurais-je crainte? David commence le psaume par une déclaration. Le Seigneur est sa lumière et son salut. Le Seigneur le conduit et le guide. Le Seigneur le délivre. C'est pourquoi, dit-il, de qui aurait-il peur? Le Seigneur est la forteresse de sa vie, ce qui signifie que le Seigneur est sa citadelle, un lieu fort et sûr. Encore une fois, il demande, de qui devrait-il avoir peur? Eh bien, comme nous le voyons au verset 2 et 3, il y avait beaucoup de personnes dont David aurait pu avoir peur. 2. Lorsque des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. 3. Si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas de crainte. Si une guerre se lève contre moi, pourtant, je garderai confiance. De qui David aurait-il peur? Il aurait pu craindre de nombreuses personnes. Même si David était un homme selon le cœur de Dieu, il avait des ennemis. Il y a eu de nombreuses fois où il a dû fuir pour sauver sa vie. Ici, il compare certains de ses ennemis à des animaux sauvages qui viendraient dévorer sa chair. Et pourtant, même si ses ennemis l'entourent, même si la menace de la guerre est bien réelle pour lui, il garde sa conviction que le Seigneur est sa lumière et son salut. Mon premier point ce matin, premièrement, aie confiance dans le Seigneur. Les versets 1 à 3 montrent la confiance de David dans le Seigneur. Il n'est pas confiant en ses propres capacités. Il n'a pas confiance en ses propres dons ou talents. Il est confiant dans le Seigneur. Il croit. Cette Bible est remplie de vérités et de promesses de la part du Seigneur, comme le fait que le Seigneur est notre lumière dans les ténèbres. Le Seigneur est notre salut. Il est notre sauveur. Le Seigneur est une forteresse puissante et une tour solide. En lui, nous pouvons trouver refuge et force.
Ces vérités se trouvent dans la Bible. Ces promesses sont dans la parole de Dieu. La question est, y croyez-vous? Les tenez-vous fermement? Je ne pense pas que notre confiance dans le Seigneur passe soudainement de 0 à 100%. Je pense que notre confiance dans le Seigneur grandit à mesure que notre relation avec lui grandit. Plus nous voyons Dieu ouvrir un chemin, plus nous voyons Dieu intervenir, plus nous avons confiance en lui. À ce moment de sa vie, David était passé par des combats. Il avait vu Dieu agir. Lorsqu'il dit que le Seigneur est sa lumière et son salut, ses paroles ne sont pas vides de sens pour lui. Ces mots sont une déclaration.
Quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, quel que soit le combat auquel tu fais face, si tes circonstances ne sont pas bonnes, si le mal t'entoure, permets-moi simplement de te rappeler que le Seigneur est ta lumière et ton salut. Peu importe à quel point tout te semble sombre, le Seigneur est ta lumière. Sa lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Dieu peut ouvrir un chemin. Mets ton espérance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 4. J'ai demandé une chose au Seigneur, que je recherche avec ardeur. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. Même si les ennemis de David le poursuivent et veulent le tuer, où David veut-il être? Dans la présence du Seigneur. Or ceci se passe avant que le temple ne soit construit par son fils Salomon. Donc David fait probablement référence au tabernacle, la tente où étaient offertes les offrandes au Seigneur, et où la présence de Dieu se trouvait dans le Saint des Saints.
Le tabernacle, puis plus tard le temple, était le lieu où le Seigneur habitait avec son peuple dans l'Ancienne Alliance. David dit, « Seigneur, si je ne pouvais avoir qu'une seule chose, ce serait de pouvoir demeurer dans ta présence et t'adorer tous les jours de ma vie. » Pour le dire simplement, David veut simplement être avec le Seigneur. Un de mes humoristes préférés est devenu père il y a quelques années. Il parle du temps perdu avec ses enfants. Il disait que tous les livres sur l'éducation affirment qu'il faut passer du temps de qualité avec ses enfants, faire des activités ensemble, et essayer de créer des souvenirs. C'est ce que disent la plupart des livres sur l'éducation. Il faut passer autant de temps de qualité que possible. Mais cet humoriste explique que le temps de qualité, c'est bien, mais qu'il aime aussi le temps perdu avec ses enfants. Il dit que le temps perdu, c'est quand il ne se passe rien de spécial. Peut-être qu'il mange des céréales avec son fils. Peut-être qu'il regarde la télévision avec sa fille. Rien de bouleversant ne se passe. Ils sont simplement ensemble.
Parfois, dans notre relation avec Dieu, nous la rendons tellement centrée sur l'action. Et c'est vrai. Dieu nous a créés en Christ Jésus pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais mettez-la en pratique. La vie chrétienne implique de l'action. Mais il s'agit aussi d'être, simplement être avec le Seigneur, dans sa présence. Le salut n'est pas le but ultime de la vie chrétienne. Le but ultime n'est pas seulement que nos péchés soient pardonnés. Au contraire, le salut est le moyen d'atteindre le but final. Le pardon de nos péchés nous aide à parvenir à l'objectif principal, qui est d'être, finalement, avec Dieu,
être réconcilié avec lui. Simplement être avec lui. C'est cela, l'espérance du ciel. Qu'un jour, nous puissions simplement être avec notre Père céleste. David dit à Dieu, « Je veux juste être avec toi. Je veux contempler ta beauté. » Habituellement, lorsque nous parlons de beauté, nous parlons de quelque chose de physique. Elle est belle. Ce tableau est beau.
Mais Dieu est esprit. Alors qu'est-ce que David regarde? Qu'est-ce que David contemple?
Nous pourrions parler de la beauté de la création de Dieu, un coucher de soleil, les montagnes, et ainsi de suite. C'est, en effet, magnifique.
Mais David ne veut pas être dehors, à contempler la création de Dieu.
Au verset 4, il semble être à l'intérieur de la maison du Seigneur, réfléchissant à la beauté de Dieu. Lorsque nous parlons de la beauté de Dieu, nous parlons souvent de son caractère et de sa nature. Nous parlons de qui il est, sa bonté, sa miséricorde, sa sainteté, sa gloire.
David veut passer du temps à penser à cela. Il veut passer du temps à contempler le Seigneur.
Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous arrêter un instant pour considérer la bonté de Dieu? Quand vous êtes-vous arrêté pour considérer sa grâce? Quand avez-vous contemplé le Seigneur pour la dernière fois?
Mieux vaut un seul jour dans ses parvis que mille ailleurs.
David continue.
5. Car il me protégera dans son abri au jour du malheur.
Il me cachera sous le couvert de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher.
6.
Maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Qui m'entourent, j'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je ferai résonner la musique pour le Seigneur. Demeurer dans la présence de Dieu a donné à David l'assurance de se réjouir dans le Seigneur, même lorsque ses circonstances n'étaient pas favorables.
Il déclare que Dieu le cachera dans son abri.
Il le couvrira dans la tente. David sera en sécurité. Loué soit Dieu pour l'abri, n'est-ce pas? Il a fait froid ces derniers temps.
Et rien n'égale ce moment où l'on est dehors dans le froid et la neige,
puis où l'on peut entrer dans un bâtiment et trouver la chaleur. C'est un si grand soulagement d'avoir de la chaleur et un abri.
Dans la froideur et l'obscurité de cette vie, le Seigneur est ton abri. Tu peux te réfugier à l'ombre de ses ailes. Les versets 5 et 6 concernent entièrement l'avenir. David sait que le jour du malheur viendra.
Mais il sait aussi que le Seigneur prendra soin de lui.
Et à cause de cela, David prend un engagement envers Dieu. Le deuxième point, 2. Soyez engagés envers le Seigneur. Au verset 6, David dit que, quoi qu'il lui arrive, il continuera d'offrir ses sacrifices au Seigneur. Non pas par obligation, mais avec des cris de joie. David dit que, quoi qu'il lui arrive, il chantera et fera résonner la musique pour le Seigneur. David était engagé envers le Seigneur, quoi qu'il arrive. Dimanche dernier, ce fut une joie de rencontrer un nouveau frère ici à l'église. Et il m'a dit, « C'est une nouvelle année, je veux m'engager. »
Je lui ai suggéré quelques moyens de servir et lui ai parlé de quelques études bibliques.
Et mercredi soir, il est venu. Il a tenu parole. Quel beau début d'année pour lui.
Soyez engagé envers le Seigneur. Décidez-le aujourd'hui.
Dites, puis moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, quoi qu'il arrive. Peu importe si la maladie vient, peu importe si vous perdez votre emploi, peu importe si vous échouez à un examen, peu importe quoi. Servez le Seigneur avec joie. Chantez un chant nouveau pour le Seigneur.
Soyez engagé envers lui.
7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi.
8. Mon cœur dit de ta part.
Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel.
9.
Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon aide. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut.
10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera.
Les 6 premiers versets du psaume 27 expriment une telle confiance en l'Éternel, même au milieu des circonstances difficiles.
Mais dans ces versets on sent comme un changement. maintenant. »
David dit, « Ne te cache pas de moi, Dieu. Ne te détourne pas de moi. Ne m'abandonne pas, Dieu. »
Qu'est-il arrivé à David? Où est la confiance? Où est l'assurance?
Eh bien, vous remarquerez peut-être aussi que la personne à qui David s'adresse a changé. Dans les 6 premiers versets, il parle de Dieu à la 3e personne. Il dit « Le Seigneur est, il sera ». Au verset 7, il passe à la 2e personne. Il s'adresse directement au Seigneur. « Tu as dit, je cherche ta face, Seigneur. » C'est plus intime. Mon 3e point tiré du texte, 3. Soyez honnête avec le Seigneur. Tout ce que David a dit dans les versets 1 à 6 est vrai. Mais nous avons également un aperçu de ce qu'il a sur le cœur et à l'esprit dans les versets 7 à 10. David a confiance dans le Seigneur, mais David n'a pas autant confiance en lui-même. Comme le dit un auteur, une chose est de contempler le Seigneur dans le sanctuaire, et une autre de voir l'ennemi approcher sur le champ de bataille. David connaît le Seigneur, mais il se connaît aussi. Il connaît ses émotions. Les émotions montent et descendent.
Vous n'avez pas besoin de faire semblant devant Dieu concernant ce que vous ressentez. Il sait déjà comment vous vous sentez. Vous pouvez partager cela avec lui. La vie chrétienne ne consiste pas à être fort par sa propre force ou à faire semblant. Il s'agit d'être fort dans le Seigneur. Quand vous êtes faible, il est fort. David sait qu'il a encore des progrès à faire dans ce domaine. Regardez les versets 11 et 12. 11. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, et conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ils respirent la violence. David dit, enseigne-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur. David ne pense pas qu'il a toutes les réponses. David sait d'où vient son secours. Soyez honnête avec le Seigneur et soyez ouvert au Seigneur. Demandez-lui son aide. Les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Ils ont demandé à Jésus de les aider à croire. La douceur n'est pas de la faiblesse. Dernier verset.
13. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. 14. Attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends-toi à l'Éternel. Cela change de nouveau. On passe de la 2e personne à la 3e personne quand David parle de l'Éternel. David s'adresse maintenant à d'autres adorateurs. Il dit qu'il croit en la bonté de Dieu. Il leur dit d'être patient, d'être fort dans le Seigneur et d'être courageux.
Regardez votre voisin et dites « Attends-toi à l'Éternel ». Regardez votre voisin et dites « Sois fort dans le Seigneur ». Regardez votre voisin et dites « Sois courageux ». Pourquoi nous réunissons-nous chaque dimanche matin en tant que famille d'Église ? Nous nous réunissons pour adorer le Seigneur dans son sanctuaire. Nous venons pour louer son saint nom. Et nous venons aussi pour nous rappeler les uns aux autres ce qui est vrai dans le Seigneur, que Dieu est bon, que nous pouvons lui faire confiance pendant que nous l'attendons. Mon dernier point, 4. Soyez courageux dans le Seigneur. Comme je l'ai lu plus tôt, c'est une chose de contempler le Seigneur dans le sanctuaire et c'en est une autre de voir l'ennemi s'approcher sur le champ de bataille. Nous nous réunissons en ce lieu, puis nous repartons dans le monde. Mais nous n'allons pas dans le monde avec crainte. Nous allons dans le monde avec courage. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Soyez forts et courageux, car le Seigneur votre Dieu est avec vous partout où vous allez.
Vous avez l'impression que quoi que David soit en train de traverser, cela n'est pas encore terminé. Quel que soit le combat, il continue. Il est encore en plein dedans. Ainsi, alors qu'il est dans la bataille, il attend l'Éternel. Comme le dit le proverbe, attendre l'Éternel, c'est être dépendant de lui. Ce n'est pas de la passivité. Attendre l'Éternel, c'est placer notre espérance en lui. Quel est votre combat aujourd'hui ? Comme le dit le proverbe, Chacun mène un combat, et bien souvent, nous n'avons aucune idée des luttes que les autres traversent. Quel est votre combat aujourd'hui? Cela pourrait être lié à votre santé. Cela pourrait concerner vos finances. Cela pourrait être un problème relationnel. Cela pourrait être une instabilité face à l'avenir. Ou peut-être que c'est autre chose. Permettez-moi de vous rappeler ce matin que le Seigneur est votre lumière et votre salut. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Il est votre abri. Vous êtes en sécurité avec lui. Attendez-vous à l'Éternel. Soyez courageux. Attendez-vous à l'Éternel. Il est fidèle, il est bon, et vous pouvez lui faire confiance.
Je veux terminer l'histoire de la missionnaire Darlene Daibler. Comme je l'ai mentionné plus tôt, son mari est mort dans le camp de prisonniers et elle ne l'a appris que 3 mois plus tard. Lorsqu'elle a appris sa mort, elle était au plus bas. Elle s'est demandé si Dieu l'avait abandonnée. Permettez-moi de lire un extrait de son histoire. J'ai découvert, cependant, que lorsque je détournais mes yeux des circonstances qui m'accablaient, sur lesquelles je n'avais aucun contrôle, et que je regardais en haut, mon Seigneur était là, debout sur le parapet du ciel, me regardant. Au plus profond de mon cœur, il murmurait, « Je suis là. Même quand tu ne me vois pas, je suis là. Jamais, pas même un instant, tu n'es hors de ma vue. » La prière, les versets bibliques mémorisés et les chants de louange furent comme une corde spirituelle à 3 brins qui soutint Darlene durant ces jours terribles. Elle écrivit, « Je passais beaucoup de temps à répéter des versets bibliques. En commençant par la lettre A, je récitais un verset commençant par cette lettre. Puis je continuais à travers tout l'alphabet. J'ai découvert que la plupart des chants que nous avions chantés quand j'étais petite fille étaient encore cachés dans mon cœur, même si je n'en avais consciemment mémorisé que peu. Lorsque la nouvelle de la mort de son mari se répandit dans le camp, Darlene fut convoquée dans le bureau du commandant du camp de prisonniers. C'était un homme dur et brutal qui avait battu à mort un prisonnier de guerre dans un autre camp. Il lui dit, « Madame Daibler, c'est la guerre. Vous êtes très jeune, un jour la guerre sera finie et vous pourrez retourner en Amérique. Vous pourrez aller danser, aller au théâtre, vous remarier, et oublier ces jours terribles. » Elle lui demanda si elle pouvait dire quelque chose. Il répondit « Oui ».
Elle dit « Je n'ai pas de chagrin comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je veux vous parler de quelqu'un dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. J'ai appris à le connaître lorsque j'étais jeune fille. Son nom est Jésus. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. » Elle raconta au commandant du camp de prisonniers la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés, que par la foi en sa vie, sa mort et sa résurrection, nous pouvons être sauvés par sa grâce, au moyen de la foi. Pendant que le commandant écoutait, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Elle lui dit, « Jésus est mort pour vous et il met l'amour dans nos cœurs. Même pour ceux qui sont nos ennemis. C'est pourquoi je ne vous hais pas. Peut-être que Dieu m'a amené ici, en ce lieu et en ce temps, pour vous dire qu'il vous aime. » Le commandant du camp quitta rapidement la pièce, submergé par l'émotion.
Plus tard, la police secrète japonaise vint chercher Darlene et l'accusa d'être une espionne. Ils l'enfermèrent seule dans une cellule de prison. Ils ne lui donnèrent pas beaucoup à manger, et, la plupart du temps, elle s'occupait à essayer de tuer les moustiques dans la cellule. Mais plus tard, elle écrivit. « Je savais qu'il pouvait m'enfermer, mais il ne pouvait pas enfermer mon merveilleux Seigneur. Jésus était là, dans la cellule avec moi. Elle fut souvent battue. Ses beaux cheveux noirs étaient devenus gris. Mais un jour, à travers la fenêtre de sa cellule, elle vit une autre prisonnière introduire en cachette quelques bananes dans la prison. Darlene commença à avoir très envie de bananes.
Elle s'agenouilla et dit, « Seigneur, je ne te demande pas tout un régime comme celui qu'a cette femme. Je veux juste une banane. » Elle leva les yeux et supplia, « Seigneur, juste une banane. » Puis, elle se mit à réfléchir. Comment Dieu pourrait-il lui procurer une banane? Il n'y avait vraiment aucun moyen pour que cela arrive. Elle ne pouvait demander à personne de le faire. Cela lui était impossible d'obtenir une banane.
Elle pria de nouveau. « Seigneur, il n'y a personne ici qui pourrait m'apporter une banane. Il n'y a aucun moyen pour toi de le faire. S'il te plaît, ne pense pas que je ne suis pas reconnaissante pour le riz. C'est juste que, eh bien, ces bananes avaient l'air si délicieuses. » Le lendemain matin, elle eut une visite surprise, le commandant du camp de prisonniers. Il s'était attendri envers elle depuis leur conversation. Il vit à quel point elle était malade et mal nourrie. Après quelque temps, il partit, mais quelques minutes plus tard, un gardien vint à sa cellule. Le gardien ouvrit la porte, entra, et posa un grand sac par terre. « Ce sont des bananes, » dit-il. « Elles viennent du commandant du camp de prisonniers. » Lorsqu'il partit, elle alla vers le sac et compta les bananes. Il y en avait 92.
Elle mit les bananes dans un coin et pleura. Elle pria, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai tellement honte. Je n'ai pas pu te faire assez confiance pour que tu m'obtiennes ne serait-ce qu'une banane. Regarde-les, il y en a presque une centaine. » Mais, écrivit-elle, dans le calme de la cellule assombrie, il me répondit dans mon cœur, « C'est ce dont je me réjouis, faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. » Je savais à ce moment-là que rien n'est impossible à mon Dieu. Peu de temps après cela, le Seigneur sauva Darlene de la décapitation. Finalement, la guerre prit fin et elle rentra chez elle. Elle se remaria et retourna plus tard en Nouvelle-Guinée avec son mari, où ils partagèrent l'amour du Christ avec les habitants pendant les 40 années suivantes. En 1976, une amie de Darlene lui dit qu'elle avait entendu l'ancien commandant du camp de prisonniers à la radio. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fut jugé et condamné à mort pour avoir battu un homme à mort de manière brutale. Sa peine fut ensuite commuée en emprisonnement à vie avec travaux forcés. Plus tard, cette peine fut également commuée et il fut libéré.
À la radio, on entendit le commandant du camp de prisonniers partager l'évangile de Jésus-Christ en japonais. Il parla de sa cruauté pendant la guerre, mais expliqua comment Jésus avait transformé sa vie. Darlene fut la première personne à lui avoir annoncé l'évangile, ce qu'elle fit le jour même où elle apprit la mort de son mari. Le 24 février 2004, Darlene s'est éteinte paisiblement et est entrée dans la présence du roi qu'elle avait tant aimé et fidèlement servi. Elle avait 86 ans. Dans son autobiographie, elle écrivit « Le 27e psaume a été un grand réconfort pour moi. Je savais que sans Dieu, sans la conscience de sa présence à chaque heure troublée, jamais je n'aurais tenu bon. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. Le Seigneur est le refuge de ta vie. Il te cachera sous son abri au jour du malheur. » Attends-toi à lui. Sois fort. Prends courage. Car le Seigneur est avec toi partout où tu iras. Fin du sermon.